Épilogue. Il s'écoula un jour. Robert Kergorieux recouvra l'usage de ses sens. Quand il revint à lui, il se trouvait au lit, dans une chambre assez élégante d'une jolie maison de campagne des environs de Toulon. Plusieurs personnes l'entouraient et lui prodiguaient leurs soins. « Dieu merci, ce ne sera rien !» disait un personnage qu'à son costume autant qu'à son langage, on pouvait prendre pour un médecin. « Ce jeune homme a eu du bonheur, mais il doit surtout d'être sauvé à sa rare intrépidité. La mère en courroux ne lui a pas fait peur un seul instant. Il luttait avec la tempête comme un enfant s'amuse avec un jouet. C'est une rafale qu'il a jetée sur la pointe des rochers et étourdie du coup. Sans ce contre-coup, il serait arrivé au port en nageant. J'en ai l'assurance. » Robert Kergorieux, sentant renaître enfin les forces de sa mémoire, se rappela l'orage formidable de l'avant-veille, le vaisseau désemparé et faisant eau de toutes parts, l'équipage disséminé et frappé de stupeur, les passagers poussant au ciel une dernière plainte et une dernière prière, et lui-même essayant, mais en vain, de sauver ceux qui se trouvaient près de lui et étant en danger de périr. « Quel terrible et magnifique spectacle que cette tempête » s'écria-t-il. « Ah, quelle belle vie que celle des gens de mer !» On prit ses paroles pour un reste de délire. On lui donna des boissons adoucissantes pour calmer cette fièvre. « Monsieur le docteur, » dit alors le jeune homme, « je vous remercie de vos bons soins, ainsi que je le fais pour les personnes qui ont pour moi tant d'attentions délicates. Mais je vous en prie, « laissons là vos louches et vos tisanes, et cela pour une excellente raison, c'est que je ne suis plus malade. »«
En êtes-vous bien sûr ?» demanda le médecin.
« J'ai eu de la fatigue, j'ai succombé à un étourdissement, j'avais avalé plus d'eau salée qu'il ne convient d'en boire, mais tout cet évanouissement a cédé devant la généreuse hospitalité que j'ai reçue ici. Dès demain, je me remettrai sur mes jambes, car enfin maintenant, j'ai bon pied et bon œil. »
En même temps, il demanda des nouvelles du Neptune. Il apprit que, grâce à l'énergie et aux sentiments philanthropiques des marins du port de Toulon, presque tous les passagers avaient été sauvés.
« Ainsi, reprit-il en se tournant du côté du docteur, j'avais donc bien raison de le dire tout à l'heure, c'est une belle vie que celle des gens de mer. Voyez comme la vue du danger fait naître promptement le courage dans le cœur des marins. Y a-t-il un dévouement comparable à celui qui se livre à la fureur des flots pour rendre son semblable à la vie? Une fois l'orage passé, quand le calme est revenu et qu'on peut voir de ses yeux le bien qu'on a fait, y a-t-il une récompense qui vaille celle-là? Tu as empêché un frère ou une sœur de se noyer? Non, sans doute. » Puis il répétait, « Eh bien, je ne serai jamais que marin. » En ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit pour donner passage à deux jeunes gens en costume de voyageurs élégants. Robert Kergorieux poussa aussitôt un cri de surprise et de joie. Il venait de reconnaître Horace Verpré et Claude Marteau.
« Horace, Claude, vous ici » s'écriait-il. « Comment avez-vous appris que j'étais dans cette maison ?»
Les deux jeunes gens se jetèrent d'abord sur lui pour l'embrasser. Puis, après le premier moment de l'émotion, Horace Verpré prit la parole. « Si tu as reçu ma dernière lettre, lui dit-il, tu dois savoir que nous t'attendions à Marseille. Tu penses bien que nous ne nous lassions pas d'interroger les navires qui arrivaient au port. Ayant toujours la longue vue à la main, nous ne perdions pas des yeux les points de l'horizon par où tu pouvais revenir. Enfin hier, dans la soirée, nous avons appris le sinistre du Neptune. Un secret pressentiment nous disait que tu devais te trouver sur ce navire. Juge de nos transes. Tâche de te faire une idée de notre tristesse. Nous ne pouvions attendre plus longtemps. Nous avons enfourché chacun un bon cheval et nous sommes arrivés à Toulon avec autant de rapidité qu'il a été possible, en ne nous arrêtant pas. On nous a indiqué alors la maison hospitalière qui t'a accueilli et nous voilà. »
Le lendemain, après avoir renouvelé ses remerciements, Robert Kergorieux, tout à fait rétabli, se leva et partit en compagnie de ses deux amis.
« À Saint-Malo! À Saint-Malo !» s'écriait Claude Marteau. « Voilà notre dernière halte !»
En entrant à Saint-Servant, Robert Kergorieux trouva la petite maison de son parrain
transformée et singulièrement embellie. On avait conservé avec un soin religieux tout ce qu'avait aimé Robert Surcouf, le dessin principal du petit édifice, la fenêtre à laquelle il prenait plaisir à respirer l'air et à se chauffer au soleil. On n'avait touché à aucun des meubles qui garnissaient sa chambre à coucher, mais, ces pieuses réserves une fois faites, l'habitation avait été augmentée d'un charmant petit pavillon d'une grande délicatesse et qui ressemblait à un kiosque d'Orient. Des plantes grimpantes et quelques arbres de la presqu'île du Gange animaient le jardin agrandi. À l'aspect de ces merveilles, Robert, enchanté, ne put s'empêcher de faire entendre un cri de joie et d'attendrissement. « Je vois que la main de Claude Marteau a passé par là, » dit-il. « C'était la seule manière que j'eusse de remercier mon frère adoptif, » répondit l'excellent garçon. Horace Verpré, ayant pris Robert par la main, le mena dans un coin un peu plus retiré de l'enclos. Au milieu d'un massif de cyprès et sous l'ombrage de deux saules pleureurs, il lui montra deux petites colonnes en forme de pyramide. C'était un double et pieux souvenir. De ces deux petits monuments votifs, l'un portait le nom de Robert Surcouf, l'autre celui de Jacques. « Voilà encore une attention délicate de Claude !» s'écria le filleul du corsaire. « Il ne peut avoir que de bonnes pensées !» Claude Marteau intervint et dit « Mettons-nous à table et nous causerons. J'ai fait disposer un petit repas pour fêter le retour de Robert. Tout en nous rappelant les principaux événements de notre voyage, nous verrons ce que chacun de nous aura à faire dans l'avenir. » À table, en effet, ils agitèrent cette grave question, toujours si difficile pour des jeunes gens qui entrent dans la vie réelle, le choix d'un état. « Quant à moi, » dit Claude Marteau, « il n'y a pas le moindre doute. J'ai assez vécu au milieu des aventures. J'ai assez couru, assez attendu, assez éprouvé d'angoisse. Je vous déclare tout net, chers amis, que je ne veux plus me confier aux caprices de la mer. Je m'en tiens au plancher des vaches, comme disent les bonnes gens. D'ailleurs, je n'aurai pas trop à me plaindre. Comme la fourmi prévoyante de la fable, j'ai amassé autant de chaud de quoi vivre honorablement l'hiver. Ainsi, voilà mon avenir bien dessiné. Vivre en bon bourgeois, la canne à la main, l'été, cueillant les fruits l'automne, l'hiver me chauffant à mon foyer. » « Fort bien, Claude, je l'entendais ainsi, » répondit Robert Kergorieux. « Eh, justement, puisque tu as les goûts d'un citadin, tu resteras dans cette petite maison bourgeoise que tu as si bien embellie d'ailleurs, dans cette petite maison qui est pour toujours à nous trois, puisqu'elle appartient à l'un de nous. « Mais, vous autres, mes amis, » reprit l'ancien marchand de Tafia, « est-ce que vous ne voulez pas y résider avec moi ?»« Nous ne le pouvons pas, nous ne le pouvons en aucune façon, Claude. Je parle du moins pour moi, » ajouta Robert. « Que veux-tu dire ?» Dans le cours de notre voyage à terre, sur mer, quand nous étions tour à tour heureux et malheureux, Jacques me disait « Robert, quand tu seras de retour à Saint-Malo, il peut se faire que je ne sois plus de ce monde. Dans ce cas-là, une fois revenu, tu feras demander une copie du testament du capitaine et tu te feras lire l'article qui te concerne. » « Au fait, » répartit Claude, « comme il m'avait recommandé de songer à avoir pour toi, le cas échéant, une expédition de cet acte, je l'ai là. » « Eh bien, » poursuivit Robert, « je ne connais pas l'article qui me concerne, mais j'en devine l'esprit. Les conversations de Jacques me l'ont fait comprendre. » Claude Marteau, qui s'était levé de table, revint un instant après avec un petit cahier. « Voilà le testament, » dit-il, et il lut à haute voix. « Ceci est mon codicille. Moi, Robert Surcouf, saint de corps et d'esprit, je lègue et transmets par les présentes dispositions à Robert Kergorieux, mon filleul, ma petite maison de Saint-Servant avec ses annexes et dépendances. J'ajoute que si, après un voyage de long cours autour du monde, il est animé d'un vif amour pour la mer, s'il est brave, s'il est bien portant, s'il a enfin toutes les qualités qui constituent un bon marin, je lui lègue et donne, pour s'en servir, une carabine d'honneur qui m'a été décernée lors de mes campagnes, sûr qu'il en fera un bon usage dans l'avenir, en foi de quoi j'ai signé, etc., etc., etc. »
« Eh bien, est-ce clair ?» reprit Robert Kergorieux. « Un tel legs oblige. Je ne puis être que marin. D'ailleurs, cette grande course que nous venons de faire jusque dans l'Extrême-Orient n'a pu que développer ce goût-là, et j'y obéirai. »
Horace Verpré s'empressa de dire qu'ayant une pensée en tout conforme à celle de son ami, il serait marin comme lui.
Tout ce que Claude Marteau put imaginer de séduisant pour leur faire aimer la vie sédentaire, l'existence calme et aisée de la terre ferme, échoua contre leur résolution. À chaque instant, Robert Kergorieux répondait, sous forme d'argument, « Je ne peux pas désobéir à mon parrain. Il a voulu faire de moi un marin, et je serai marin. » Il n'y avait rien à répliquer. Après un temps raisonnable donné au repos qu'exigeait leur récente fatigue, Robert et Horace se consacrèrent à la reprise des études préliminaires qu'on exige de tous les apprentis amiraux.
Vous avez bien de la bonté de vous casser la tête à piocher ainsi les mathématiques, quand il vous serait si facile de vivre ici sans tracas.
Nous voulons revoir un jour les grandes mers que nous avons traversées avec toi, répliquait-il. En effet, tous deux ont été admis après un brillant examen à l'école navale de Brest. Nommés enseignes le même jour, les deux amis commencèrent leur carrière sur des navires différents. Claude Marteau, qui était accouru à Brest pour les revoir et leur souhaiter bon voyage, était tout fier de se promener avec deux beaux jeunes gens parés de magnifiques uniformes.
« Où vas-tu » demanda-t-il à Horace.
« Je m'embarque sur le Flégeton, qui doit parcourir pendant près de 2 années les mers du Nord. » Quant à Robert Kergorieux, il faisait partie de l'équipage de la Louisiane, qui allait en croisière près des côtes de Madagascar. Les deux navires que nous venons de nommer ne devaient pas tarder à prendre la mer. À 3 mois de cette date, la Louisiane, ayant le vent en poupe, voguait sur la mer des Grandes Indes, faisant bonne garde sur des mers où les pirates barbares mettaient d'ordinaire tout à feu et à sang. « À présent que nous sommes là, reprenaient les marins, vous verrez que pas un de ces brigands à la peau tannée n'osera se... » En ce moment, un léger coup de sifflet se fit entendre. C'était la vigie qui signalait un point noir à l'horizon. Le capitaine s'empara de sa lunette.
« J'ai parlé trop vite tout à l'heure, » reprit-il. « Dans quelques instants, nous aurons une petite conversation avec les beaux messieurs qui viennent au-devant de nous. Il faut nous préparer à les bien recevoir. »
En même temps, il ordonna la grande manœuvre.
« Enfants, tout le monde sur le pont !»
10 minutes ne s'étaient pas écoulées que le point noir qui estompait l'horizon devenait plus visible à l'œil. Il y avait réellement plusieurs bâtiments. Ils étaient de petites dimensions, mais on n'en comptait pas moins de 3.
« Ce sont des pirates malais, ainsi que je l'avais d'abord supposé !» dit la vigie. « Les drôles se sont mis à 3, pensant être ainsi plus à même de se gagner l'impunité. »«
Ils seraient 6, se hasarda à dire Robert, « qu'ils reculeraient tout de même devant la Louisiane !»
Ici, le capitaine somma les 3 bâtiments d'avoir à amener leur pavillon. Point de réponse. Le capitaine commanda, suivant les règlements, une seconde sommation plus énergique. Les pirates, comptant sans doute sur leur nombre, n'eurent même pas l'air d'avoir entendu.
« Bon, se dit l'équipage, ça va chauffer. »
Effectivement, le capitaine commanda la manœuvre du branle-bas général. C'étaient 3 gabarres qui se suivaient de près, mais pas encore assez cependant pour s'opposer à ce qu'un bon brick, tel que la Louisiane, n'avala la première d'une bouchée.
« À l'abordage, enfants, coupez les agrès, renversez les mâts et au besoin, mettez le feu au sabord !» s'écriait le capitaine.
Ses ordres furent ponctuellement exécutés et la première gabarre vite réduite.
« À l'autre maintenant !»
Le brave officier, montant le premier à l'assaut pour donner l'exemple, reçut un coup de hache qui lui fracassa les 2 cuisses.
« Me voilà hors de combat !» s'écria-t-il. « Je vais mourir. Que le second prenne ma place. La Louisiane les rompra tous les 3. »
La seconde gabarre venait d'être dématée, désemparée,
rendue inoffensive. Restait la troisième, qui était aussi la plus formidable. Robert Kergorieux, dont le poste venait de prendre plus d'importance, se multipliait tant pour transmettre les ordres du second que pour courir à l'abordage. La résistance était opiniâtre. Sur ce troisième bâtiment, les pirates étaient des lions déchaînés. Celui qui les commandait mit en joue le second du brick et lui cassa un bras. Au même instant, Robert Kergorieux, plus prompt que l'éclair, se jeta sur l'échelle, atteignit le bandit et d'un coup d'épée le jeta tout sanglant sur le pont. « Viva Robert Kergorieux !» s'écria l'équipage. La troisième gabarre était prise. En somme, si cette journée avait coûté cher, l'action était des plus glorieuses. La Louisiane, traînant à sa remorque les trois gabarres chargées d'un riche butin, mit le cap sur Bourbon. Grâce à des soins promptement administrés, le capitaine vécut assez pour rédiger le rapport de l'affaire. Rien n'y était omis. Le courage si brillant du filleul de Robert Surcouf y était dignement mis en relief. Au retour de l'expédition en France, c'est-à-dire un an après le départ, Robert Kergorieux était nommé, par ordonnance du roi, aspirant de première classe et chevalier de la Légion d'honneur. Ces détails, que Claude Marteau put lire dans le Moniteur, furent transmis par l'excellent garçon à Horace Verpré, qui ne put s'empêcher de dire « Mon cher Robert marche sur les traces de son glorieux parrain ».